Véroa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, Mouamadou Oumpa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 17 avril 2023. Il est 17h30 en universel. Voici le sommaire. Gros plan sur la toute dernière crise soudanaise. Une centaine de civils ont déjà été tués au troisième jour des combats entre l'armée et un groupe paramilitaire. De nombreux appels fusent dans le monde pour une cessation immédiate des combats. À suivre, le portrait des deux généraux qui s'affrontent pour le contrôle du pouvoir. Au Sénégal, le procès en appel pour diffamation contre l'opposant Ousmane Sonko a été renvoyé au 8 mai. L'opposant russe Vladimir Karamurza, condamné à 25 ans de prison pour haute trahison et diffusion de fausses informations sur la guerre en Ukraine. Assure également les nouvelles économiques, le ministre adjoint des Finances en Ouganda, inculpé pour corruption, et les sports avec le FC Barcelone qui nie toute tentative de tricherie et de corruption d'arbitre. Mais pour commencer, le journal. Situation toujours confuse au Soudan, notamment à Khartoum, la capitale, où des tirs et explosions ont gagné en intensité ce lundi, au troisième jour des combats entre l'armée et une puissante force paramilitaire dirigée par deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. Pour faire le point de la situation, Eric Manirakiza a joué le journaliste soudanais Mohamed El Hassan Ousmane Salah à Khartoum.
On ne peut pas sortir de chez lui à Khartoum parce que le commandement de l'armée soudanaise a publié une déclaration demandant aux citoyens de rester dans leur maison en raison d'opérations de poursuite terrestre qui vont commencer contre ce qu'on appelle les rebelles, ce que sont les forces de soutien rapide. Mais malgré la déclaration du commandement de l'armée soudanaise, dans laquelle il annonce avoir réussi, grâce à des bombardements aériens, à détruire tous les centres de commandement des forces d'intervention ou de soutien rapide dans l'état de Khartoum, les affrontements ont repris, bien que de manière moins intensive.
Comment se mène la vie actuellement à Khartoum depuis samedi?
Khartoum est une ville morte, riche ville, en transport en commun, magasins et boutiques fermées, tout le monde est resté chez lui dans sa maison.
Est-ce que vous parvenez de trouver à manger?
Oui, je n'ai pas encore arrivé à ce niveau-là, dans mon quartier au moins. Mais il y a d'autres quartiers plus périphériques qui commencent à parler de manquements de nourriture. Et l'eau, il n'y a pas d'eau, l'habitat est coupé. Les traditions se coupent à peu près 20 heures par jour. Aujourd'hui, par exemple, se coupent nettement. En ce moment-là, il n'y a plus d'électricité. C'était coupé le matin et c'est résolu pour 2 heures ou 3 heures. Et puis, ça se coupe encore une fois. L'internet, ça coupe, ça revient.
C'était Mohamed El Hassan Ousmane Salah, joint à Khartoum par Eric Manirakiza. Ajoutons qu'au moins 2 hôpitaux de la capitale ont été évacués alors que roquettes et balles criblaient leurs murs, ont annoncé des médecins. En plus des tirs croisés qui ont tué 3 employés du programme alimentaire mondial au Darfour, les humanitaires doivent désormais aussi composer avec les pillages, rapporte Save the Children. Plusieurs ONG et agences de l'ONU ont déjà annoncé suspendre leurs activités. Les réactions et appels au cessez-le-feu se multiplient dans le monde alors que l'ONU a demandé aux deux généraux de cesser immédiatement les hostilités. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a dit se tenir prêt à aider le Soudan, l'un des premiers pays d'accueil des réfugiés d'Afrique et ses voisins en cas de déplacement de la population. Les chefs de la diplomatie américaine et britannique réunis au Japon pour un sommet du G7 ont appelé ce lundi à la cessation immédiate des violences. Les Nations Unies se disent déçues du non-respect de la trêve humanitaire. Le point avec John Lydon.
Il y a une forte inquiétude partagée au sujet des combats, de la violence qui sévit au Soudan, de la menace que cela représente pour les civils, pour la nation soudanaise et même potentiellement pour la région, a affirmé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans une déclaration aux côtés du ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. Nous leur demandons de donner la priorité à la paix, de mettre fin au combat et de reprendre les négociations, a déclaré le diplomate britannique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est attendu au Soudan pour engager les parties vers un cessez-le-feu, a annoncé l'organisation panafricaine. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, s'est dit lundi extrêmement déçu que l'armée et les paramilitaires n'aient que partiellement respecté les 3 heures de trêve humanitaire qu'ils avaient dit accepter dimanche, au lendemain du début des hostilités. Des dizaines de civils ont été tués au Soudan où tirs et explosions continuent de secouer Khartoum ce lundi, au 3e jour de combat qui ne parviennent pas à départager l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan de la puissante force paramilitaire du général Mohamed Hamdan Daglo.
L'une des causes de la crise, c'est l'antagonisme entre deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, et Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, qui dirige le groupe paramilitaire FSR, Force de soutien rapide, qui regroupe d'anciens miliciens de la guerre au Darfour. Portrait des deux belligérants avec Jacques Aristide.
Natif de Gandatou, un village au nord de Khartoum, Abdel Fattah al-Burhan, à 62 ans, incarne le visage du pouvoir militaire au Soudan. Ce père de 3 enfants est devenu le dirigeant incontesté du pays depuis son putsch d'octobre 2021. L'ancien commandant de l'armée de terre de l'ex-président Omar el-Béchir est passé par les académies militaires soudanaises, égyptiennes et jordaniennes. Moustache poivre et sel et longue silhouette élancée, le général Burhan a troqué après le coup d'État son éternel uniforme kaki, son béret, ses galons bien en vue pour une tenue civile. Aujourd'hui, ses plus fervents adversaires, les derniers bastions de manifestants qui continuent de braver une répression meurtrière pour réclamer un pouvoir civil, l'accusent d'être un cheval de Troie des islamistes et des caciques de l'époque Béchir. Il pensait avoir négocié pour longtemps la loyauté de son second, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, patron des forces de soutien rapide. Hemeti est lui venu des milices qui ont semé la terreur au Darfour et s'est imposé comme un acteur incontournable de la politique et de l'économie au Soudan. Né en 1975 dans une tribu arabe à la frontière entre Tchad et Soudan, Daglo n'a pas poursuivi d'études, mais depuis 2019, l'homme à la longue silhouette a travaillé sa façon de s'exprimer en arabe. L'ancien nomade qui commerçait du bétail se pose désormais en paragon de l'état civil et en adversaire farouche de l'islam politique. Et dans la rue aujourd'hui, ce sont les hommes de Daglo qui depuis samedi tentent de ravir le pouvoir à l'armée.
Voilà pour la part du journal consacrée au Soudan. Allons maintenant au Sénégal où le procès en appel pour diffamation contre l'opposant Ousmane Sonko a été renvoyé au 8 mai. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le tribunal de Dakar, notamment le juge Amadi Diouf. Monsieur Sonko devait être jugé en appel pour diffamation contre le ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang. Ce dernier lui reprochait d'avoir déclaré qu'il avait été épinglé par un rapport d'une institution de contrôle pour sa gestion d'un fonds pour l'emploi des jeunes. M. Sonko a été condamné le 30 mars à 2 mois de prison avec sursis et doit verser 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts au ministre. L'opposant conserve cependant son éligibilité pour la présidentielle de 2024, selon ses avocats. En Afrique du Sud, le procès pour corruption déjà maintes fois repoussé visant l'ex-président Jacob Zuma, accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français de défense Thales il y a plus de 20 ans, a été reporté au 15 août. Cette fois, le nouveau juge qui siège au tribunal de Pietermaritzburg, l'ancien s'étant recusé en janvier, a décidé de donner du temps à M. Zuma pour préparer un nouveau recours. Un recours qui vise à faire récuser le procureur général au procès, Billy Donner, qui l'accuse de partialité et d'avoir fait fuiter des éléments du dossier dans la presse. M. Zuma est poursuivi pour 16 chefs d'accusation d'escroquerie, corruption et rackettes. Thalès est aussi poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent. En Égypte, l'épouse de l'avocat et défenseur des droits humains emprisonné, Mohamed Al-Bakr, a été arrêtée ce lundi au Caire après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux les mauvais traitements infligés, selon elle, à son mari en prison. Elle a été arrêtée, son téléphone confisqué et elle a été conduite à un lieu inconnu par les forces de sécurité tout le matin, a précisé l'initiative égyptienne pour les droits personnels, la plus importante ONG de défense des droits humains du pays. Elle a écrit sur Twitter que son mari a été battus, bâillonnés, mis en sous-vêtements pendant 2 jours et placés à l'isolement la semaine dernière. M. Bakker purge une peine de 4 ans d'emprisonnement pour diffusion de fausses nouvelles. Pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et voaafrique.com. À présent, les nouvelles économiques, la Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
En Ouganda, le ministre adjoint des Finances, Amos Lugolubi, a été inculpé lundi de corruption résultant d'un détournement présumé de matériaux de toiture du gouvernement destiné à un programme de secours dans une région agitée du nord-est qui abrite des pasteurs nomades. Amos Lugolubi, qui a plaidé non coupable, a été placé en détention provisoire jusqu'à jeudi pour sa nouvelle comparution devant le tribunal pour qu'il soit fixé sur sa libération sous caution. Le Fonds africain de développement a approuvé un don de 3,9 millions de dollars pour financer les infrastructures et les systèmes de paiement du Libéria. Le projet devrait avoir un impact sur la Banque centrale, les ministères concernés, les banques commerciales et leurs clients qui bénéficieront de meilleurs services et de délais d'exécution plus courts, d'un traitement en temps réel et d'un accès administratif en ligne. Pour terminer, la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 30 millions de dollars en faveur de Family Bank Limited au Kenya. Cette facilité devrait stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l'intégration régionale et contribuer à réduire le déficit de financement du commerce et des PME kenyanes dans la santé, les énergies renouvelables, l'agriculture et les entreprises détenues par des femmes.
Et maintenant, l'actualité sportive aujourd'hui, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Amou, on part.
Aujourd'hui, on parle de la Ligue des Champions. Suspense maximale en Italie, plus limité ailleurs.
L'Italie détient la palme de suspense avant le choc entre Naples et l'AS Milan demain mardi, 21h, temps universel. Assurément, le plus indécis des quarts de finale, le retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid, de Manchester City. Et l'Inter Milan s'avance avec assurance. L'AS Milan déboule dans le sud de la Botford de l'avantage acquis à l'aller. Mais il faudra résister au vent contraire. Un stade de Diego Maradona bouillant, rempli par près de 55 000 spectateurs. Les tifosi du Naples misent en grande partie sur l'attaquant vedette nigérien Victor Osimhen. Grand absent la semaine dernière à cause d'une gêne musculaire pour inverser des rossonneries et forcer la portée des demi-finales, ce qui serait une performance inédite. Chelsea et le Real Madrid, sacrés en 2021 et 2022 respectivement, ont davantage l'habitude d'évoluer dans ces hauteurs. Un de ces deux géants européens sera néanmoins mis au tapis demain mardi à l'issue de leur combat en Angleterre. De la même manière, le suspense n'apparaît pas très épais concernant les deux derniers quarts de finale. Retour mercredi, l'Inter Milan s'est imposé 2-0 à Lisbonne contre Benfica, tandis que Manchester City a grignoté le Bayern Munich 3-0 à domicile. Le coup de sang du Sénégalais a pollué l'atmosphère chez les Bavarois avant la manche retour au pas l'idéal, avant de retrouver Erling Haaland, l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 11 buts, encore crédité d'un doublé ce week-end en Premier League.
Parlons maintenant de ce scandale arbitral qui touche le FC Barcelone. Le président du célèbre club espagnol nie toute tentative de tricherie.
Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, dénonce une campagne de dénigrement orchestrée pour détruire la réputation du FC Barcelone. Face aux journalistes au siège du club catalan, lors de la conférence de presse, pour la première fois depuis l'inculpation du club dans un scandale arbitral, M. Laporta a précisé avoir engagé des poursuites contre ceux qui ont porté atteinte à l'honneur du club, critiquant ouvertement le Real Madrid et le président de la Liga, Javier Tebas, qui a demandé à plusieurs reprises des explications sur l'affaire.
Enfin, football, l'Argentine prête à accueillir le mondial des moins de 20 ans.
Tout à fait, l'Argentine est fortement pressentie pour organiser en mai-juin le prochain mondial masculin des moins de 20 ans. Après le retrait de l'événement à l'Indonésie, le pays de Maradona est dans l'attente d'une annonce officielle qui pourrait émaner de la FIFA dans les prochaines heures.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Au Gabon, fin le week-end dernier à Libreville, des assises nationales contre la vie chère. Le pays recherche des solutions pour améliorer les conditions de vie des populations. Les participants à ce rendez-vous ont recommandé aux autorités de surtaxer les produits de luxe comme les cigarettes et le champagne, de mettre fin à la parafiscalité et de détaxer les produits alimentaires importés. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé.
C'est la dernière ligne droite pour les ménages musulmans. En allant faire leurs courses pour la fin du Ramadan, Aïcha et Maïmina ont presque envie de tout abandonner devant la cherté des prix des denrées alimentaires dans l'un des marchés de Libreville.
Le prix d'huile a augmenté, le prix du sucre a augmenté, même les pommes de terre qu'on achetait à 90 000, tout ça là, les pommes de terre sont maintenant à raison de 135 000.
On s'organise comme ça là, avec les prix qui sont élevés. On paye quand même, on se débrouille. Et...
Se débrouiller ou se serrer la ceinture, c'est le quotidien des familles à faible revenu. Selon les commerçants, l'inflation est en partie liée aux tracasseries policières, douanières et autres sur le circuit des importations. Suzanne Dikandou est présidente du syndicat des commerçants de Libreville.
Vous arrivez là au contrôle phytosanitaire, il a son tarif. Chez le gendarme, il a son tarif. Vous arrivez là où il y a la limite de policiers, ils ont leur tarif. La douane, surtout la douane, c'est pourquoi j'ai demandé la réduction de tout produit alimentaire terrestre à 50%.
Selon les données statistiques du ministère de la Consommation, 80% des dépenses des ménages sont absorbées par l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation ou encore le transport, pour ne citer que ces secteurs. D'après Jean-Robert Meignet du syndicat des transporteurs, il faut vite agir pour inverser la courbe.
C'est un environnement professionnel désuet. Par exemple, dans le cas du transport terrestre, l'état de délabrement avancé des routes. Et nous avons donc proposé des solutions qui se résument en gros à baisser de 50% les charges sur les activités, à exonérer les activités qui sont en lien direct avec les produits de première nécessité et avec les produits essentiels des populations.
En réponse aux recommandations des assises nationales contre la vie chère, le chef du gouvernement s'engage à satisfaire l'ensemble des propositions sur le court, moyen et long terme. Alain-Claude Mbézé, Premier ministre gabonais.
Il y a parmi les propositions qui sont faites, certaines qui doivent être appliquées dans l'immédiat, il y en a qu'il faudra étaler et on ne pourra pas malheureusement tout appliquer du jour au lendemain. Parce que certaines propositions vont nécessiter des analyses, vont nécessiter un certain nombre d'inscriptions budgétaires ou alors de renoncer à un certain nombre de taxes.
Comme il fallait s'y attendre, une commission technique sera chargée du suivi et évaluation des différentes recommandations avant leur mise en application. Libreville, Maïro Binouzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Mille étudiants réfugiés inscrits dans les meilleures universités à travers le monde d'ici 2030. C'est l'ambition de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés grâce à son programme éducation. Au Cameroun, certains étudiants réfugiés sont déjà comptés parmi les bénéficiaires de ce programme. Depuis Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Lors des récentes journées portes ouvertes au siège de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Yaoundé, le stand dédié à l'éducation des réfugiés a été l'un des points d'attraction. De nombreux réfugiés éprouvent parfois des difficultés à poursuivre leurs études universitaires dans le pays d'accueil. Abou Zainabou, une jeune centrafricaine réfugiée au Cameroun depuis 2014.
En Centrafrique, j'étais étudiante. Et c'était la première année là-bas en finance, avant de venir ici au Cameroun. Et quand je suis arrivée ici au Cameroun, je me suis inscrite à soi en première année. Et la suite, alors, je n'ai pas pu terminer. Donc, j'ai laissé et j'ai fait aussi la comptabilité.
Deux programmes de bourse permettent aux réfugiés de poursuivre leurs études universitaires. Pascal Blaise Macondo, assistant chargé en éducation HCR à Yaoundé.
Le programme de Bourse d'Afi, c'est un programme qui est financé essentiellement par le gouvernement allemand et qui permet de financer les études supérieures aux réfugiés qui sont installés dans le pays d'asile. Pour le Cameroun, on a chaque année environ 50 places qui sont offertes en fonction des budgets disponibles aux jeunes réfugiés afin qu'ils puissent continuer les études. L'autre programme, c'est le son des voies complémentaires en éducation. Nous facilitons la scolarisation dans les grandes universités européennes aux réfugiés qui sont installés au Cameroun.
17 réfugiés ayant choisi le Cameroun comme premier pays d'asile sont actuellement inscrits au cycle master en Italie et en France grâce au programme ICOR, University Corridors for Refugees et Univer, qui ouvre un couloir universitaire au master pour des réfugiés. Mais d'autres opportunités d'études supérieures existent localement. Pascal Blaise Macondo, assistant chargé à l'éducation à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Yaoundé.
L'enseignement supérieur connecté. Ce programme d'ampleur permet de suivre des masters sur place au Cameroun. Nous avons seulement 5 qui suivent les masters et qui vont soutenir bientôt.
Le ministre de l'Enseignement supérieur a instruit tous les recteurs d'universités d'État de faciliter les inscriptions aux réfugiés. Ils payent le même montant des droits universitaires que les étudiants camerounais. Oliver Bier, représentant résident du HCR au Cameroun.
L'autonomisation, c'est s'affranchir de l'aide humanitaire. On peut vous assister pour sauver votre vie lorsque vous avez tout perdu, mais après on fait quoi? Est-ce que toute votre vie vous allez là tendre la main et demander l'assistance? Ça, ce n'est pas une vie digne. Une vie digne, c'est de retrouver vos marques, retrouver votre santé, retrouver l'accès aux droits qui étaient les vôtres avant que vous ne quittiez votre pays ou avant que vous ne vous déplaciez, et pouvoir nourrir votre famille, vivre comme un citoyen normal.
Le gouvernement affirme avoir dépensé 50 milliards de francs CFA entre 2016 et 2022 pour leur protection et la recherche de solutions pour une vie dans la dignité. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, depuis plusieurs jours, des citoyens dénoncent la cherté des prix des communications, notamment la connexion Internet. Ils menacent de boycotter les services des différents opérateurs de téléphonie. De son côté, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes reconnaît que les opérateurs ont une liberté de fixation des tarifs conformément à la loi sur la concurrence. L'autorité demande au Burkinabé la retenue et la poursuite des discussions. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Le mouvement de contestation est parti de la Côte d'Ivoire. Puis des internautes, des citoyens burkinabés, eux aussi ont estimé que le prix de la connexion est élevé. Mamadi Ouedraogo est un citoyen et internaute qui milite pour la baisse des prix des data.
Au départ, certaines personnes avaient lancé une dynamique pour qu'on puisse avoir une réduction des coûts. La dynamique n'a pas suffisamment pris. Et avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a un peu réveillé le dossier et le mettre au goût du jour. Donc du coup, il y a une adhésion qui est là. De façon générale, le coût de la vie est très élevé au Burkina Faso depuis ces derniers moments. Donc il y a beaucoup de jeunes qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui travaillent beaucoup sur Internet, qui utilisent Internet pour s'exprimer et faire marcher à leur manière l'économie ou le pays de façon générale. Donc si aujourd'hui les citoyens estiment que le coût est élevé, il appartient à tous les acteurs de façon concertée et de rassurer la population quant à ce qui doit être fait pour que tout le monde soit épanoui là où il est.
Les organisations de défense des droits des consommateurs trouvent aussi que les services sont chers et défaillants. Adama Bayala, président du RENCOF, les réseaux nationaux des consommateurs du Faso.
Tenez-vous bien qu'au Burkina Faso, la minute d'appel coûte 90 francs CFA. Et pour ce qui est des data des mégas, vous en avez le giga pour plus de 2100 francs, 2500 francs. Alors que dans des pays voisins, je prends le cas du Niger qui est un pays sahélien, vous avez un giga à un peu plus de 1000 francs CFA. Au Ghana, un pays côtier, vous avez un giga à moins de 400 francs CFA. On ne peut pas comprendre pourquoi ce soit aussi cher au Burkina Faso. Et pour ce qui est de la qualité aussi, qualité médiocre et exécrable avec des droits de consommateurs violés impunément dans l'indifférence.
Il y a deux types de tarifs, ceux fixés par l'autorité de régulation elle-même et les tarifs de détail appliqués au consommateur final.
Salama Tawamba Ili, directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, explique à la télévision nationale.
Pour ces tarifs, c'est la liberté de fixation en fait des tarifs, conformément à la loi sur la concurrence. Donc les opérateurs fixent les tarifs de manière libre. Cependant, il y a un petit encadrement qui veut que ces tarifs-là soient transparents vis-à-vis du consommateur, donc que l'opérateur donne le maximum d'informations concernant les offres commerciales qui sont appliquées aux opérateurs.
Les responsables de l'autorité de régulation ont annoncé la semaine dernière que des concertations avec les opérateurs de téléphonie mobile se poursuivent. Ils demandent aux Burkinabés de leur faire confiance pour donner une chance aux concertations en cours. Des citoyens et internautes ont décidé de boycotter les services des opérateurs ce mardi. De 11h à midi, les téléphones seront mis sur mode avion pendant une heure. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, gros plan sur les combats meurtriers au Soudan entre l'armée et les paramilitaires. Des puissantes forces de soutien rapide, la population prise au piège de ces affrontements paie un lourd tribut. De nombreux civils ont déjà péri dans cette guerre ouverte entre Abdel Fattah al-Burhan, la dirigeant de facto du pays, et son numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo, deux généraux à l'origine du coup d'état d'octobre 2021 et qui se disputent désormais le pouvoir. La communauté internationale a appelé à l'arrêt immédiat des hostilités. Comment en est-on arrivé là et comment ramener la paix? Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
À partir de demain, mardi, VOA Afrique diffusera une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Focus Sahel. Chaque semaine, cette émission abordera les questions urgentes auxquelles la région du Sahel fait face actuellement, tout comme les défis et les opportunités qui caractérisent cette région. Pour en parler, nous accueillons Timothée Donangmaï, chef du service français de la Voix de l'Amérique. Salut Timothée.
Bonsoir Mamadou.
Alors Timothée, pourquoi une émission spécifique sur le Sahel et quelles sont les principales thématiques qui seront abordés?
Alors Mamadou, le Sahel, ce sont quelques 135 millions d'âmes éparpillées sur 7 millions de kilomètres carrés, des frontières poreuses, des zones arides, parfois d'accès difficile. C'est une région, bien entendu, confrontée à des crises climatiques, sécheresses, inondations, des attaques de groupes extrémistes, des bandes armées, des situations parfois attisées par des acteurs extérieurs. On a noté ces derniers temps que cette instabilité dans le Sahel est en train de descendre vers la côte atlantique et déjà des pays comme le Togo et le Bénin sont menacés. C'est donc dans ce contexte que la Voix de l'Amérique, à travers Focus Sahel, se propose de se pencher sur le quotidien des communautés sahéliennes et la manière dont elles s'organisent pour faire face à tous ces défis.
Alors Timothée, il faut dire que beaucoup de clichés circulent sur le Sahel, y compris dans les médias. Comment espérez-vous que cette émission contribuera à une meilleure compréhension de cette région?
Alors Mamadou, grâce à nos correspondants sur le terrain, nous donnerons la parole aux communautés, comme je l'ai dit, pour qu'elles expliquent la complexité de la situation qu'elles vivent. Je pense par exemple à certaines communautés qui se retrouvent aujourd'hui entre le marteau et l'enclume parce que certains membres de ces communautés ont rejoint des groupes armés. Eh bien, nous donnerons l'opportunité à ces communautés-là d'expliquer ce qui se passe. En plus de nos correspondants, nous ferons aussi appel à nos stations partenaires dans les différents pays du Sahel pour des témoignages de première main, une façon pour nous de vérifier certains faits en ces temps où la désinformation sévit sur les réseaux sociaux.
Alors, plusieurs émissions sont diffusées ici même sur les antennes de VOA Afrique. Il y a donc cette nouvelle émission, Focus Sahel. Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans la mission plus large de VOA Afrique?
La mission de VOA Afrique, c'est d'accompagner l'Afrique dans sa quête de stabilité, de développement et de mieux-être. Et nous comptons le faire en partageant les expériences de différentes communautés et pour qu'elles puissent s'inspirer les unes des autres.
Voilà. Merci beaucoup, Timothée. On se donne rendez-vous demain sur VOA Afrique pour écouter Focus Sahel, la nouvelle émission consacrée à cette région du Sahel. Une émission qui sera présentée par Eric Manirakiza. C'est la fin de cette édition de, du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa. Ainsi va le Monde aujourd'hui. Plus d'informations 24h sur 24, c'est sur notre site internet www.voafrique.com ainsi que sur nos différentes plateformes numériques Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir. We'll be right back.